Le sport est-il toujours aussi inégalitaire? En tout cas, l'actualité de ces dernières années ne dit pas autre chose. Noël Le Graët, dernier exemple en date, le président de la Fédération française de football, évincé pour des propos et son comportement sexiste. L'équipe américaine de football, qui demande à être payée autant que les hommes, elle réclame pas moins de, tenez-vous bien, les paris sont lancés, 43 millions d'euros. Bon, vous l'aurez compris, être une femme dans le sport, on va pas se voiler la face, c'est compliqué. Dès le plus jeune âge, vous l'entendrez dès le début de cette émission.
Les garçons sont supérieurs aux filles, mais au foot.
Et oui, c'est brutal, c'est violent, mais ça reflète beaucoup du quotidien des jeunes filles. Comment font-elles pour s'approprier des sports de garçons? À l'école, cours genrés, non genrés, le sport s'y pratique et les mécanismes sexistes s'y reproduisent. Bien sûr, il ne faut pas oublier les clubs, c'est toujours aussi compliqué pour les femmes de s'imposer, même quand on est professionnel. Du monde du sport professionnel, il en sera aussi question, c'est peut-être le plus violent en termes d'inégalité femmes-hommes, rémunération, congé maternité, on va demander aux principales concernées. Alors, la solution viendrait-elle de la mixité? Certaines disciplines l'imposent même, comme l'Ultimate Frisbee, vous le verrez. Allez, installez-vous bien, le magazine des étudiants du QEG, c'est maintenant. Eh bien moi, je me souviens que petite, j'aurais pu être rêver d'être footballeuse professionnelle, mais finalement, j'ai pas tellement eu le choix. On m'a vite orientée vers la danse et la gym, des sports plutôt genrés. Et même si j'avais voulu faire du foot, on m'aurait laissée sur la touche, comme Charlotte et Iris, 14 ans. Simon Cheneau les a rencontrées au bord du terrain à Strasbourg, assises pendant que les mecs jouent.
On n'est que deux filles.
Il y a trop de garçons.
C'est mieux quand il y a plus de filles, on va dire.
Ils ont des propos un peu sexistes. Hein.
Je suis d'accord avec elle.
Enfin, là, ils font ça pour nous embêter, etc. Mais sinon, ils sont pas tous comme ça. Voilà.
Oh, quel lucarne. Vous avez vu? T'as vu, c'est un garçon. Les filles, ils peuvent pas faire ça.
Vous les avez déjà vu jouer?
Je sais même pas pourquoi ils font du foot.
Faites une démonstration, là, pour montrer au monsieur.
Ils savent pas jouer, hein, c'est le premier. Ça, là, il est devant le but, tu tires à côté. L'autre, je sais pas. Elle est sur le terrain pour faire la belle.
Bah voilà, t'as pas envie, t'assumes pas.
Bah
voilà.
Si, j'assume.
Bah va tirer.
Bref, les garçons sont supérieurs aux filles. Mais au foot. Non. Je dis ça comme ça. Il y a des autres filles à part eux dans le stade. Non, personne d'autre. Voilà, c'est parce qu'ils sont seulement nuls.
Mais non.
Je le prends pas mal, j'ai l'habitude avec eux. T'as regardé la Coupe du Monde féminine et masculine. Voilà, t'as regardé la Coupe du Monde des gars. Les filles, c'est pas ça, quoi. Après, ils se plaignent des salaires, vous avez pas vu? Ils disent, ouais, on veut gagner autant de matchs que les garçons. Autant d'argent que les garçons. Ils veulent faire mix. Genre garçon et fille sur le terrain. Mbappé va jouer à côté d'une chaise. À côté d'une fille. À côté d'une fille. C'est pas normal. Vous savez très bien, il va les tuer.
T'es sexiste, hein?
Non, mais pas sexiste du tout.
Je suis pas sexiste. Il est où le rapport entre la vie et le foot? Ils sont nuls, hein. J'aurais pas dit de faire le ménage.
C'est un sport, donc si t'es nul. Faut assumer.
Charlotte, je te pose juste une dernière question. Là, quand les garçons ils s'en vont, tu te remets à jouer?
Ah oui, non, mais c'est parce qu'elle voulait jouer avec eux, du coup on a rejoué.
T'es sûr?
Oui, c'est nos amis.
Eux, c'est tes amis?
Ouais.
Et eux, ils sont sexistes?
Je sais pas, faut leur demander.
Et à leur âge, 35% des petites filles ont déjà été victimes de moqueries liées à leur sexe. Et s'il faut bien donner un autre chiffre, cette fois dans le sport, puisque c'est le thème de notre émission, c'est celui-ci. Sur les 88 fédérations en France, seulement 9 ont une majorité de licenciées femmes. Parmi elles, l'équitation et la gymnastique, encore une fois des disciplines plutôt genrées. Paul, vous êtes avec moi en studio, bonjour.
Bonjour Delphine.
Vous êtes allé voir du côté du skate et du roller. C'est une fédération qui compte dans ses rangs plus de femmes que d'hommes. Mais attention à l'arbre qui cache la forêt.
Oui Delphine, je vous emmène dans un monde qui roule partout où il y a du bitume. Dans cette fédération, plusieurs pratiques, le roller à majorité féminine et le skate où les femmes sont pratiquement absentes, seulement 19% des 3200 licenciés. Alors oui, vous me direz que ce sport ne compte que peu d'adhérents, que sa pratique se fait plutôt dans la rue, au skatepark, en dehors du cadre des fédérations, sauf que même là, il est pour la plus grande majorité masculine. Je me suis rendu à un cours de skate organisé par la NL Rolling School à Königshofen, à l'ouest de Strasbourg. Imaginez un grand gymnase presque vide entre les lignes de marquage de basket, quelques tremplins. Là-bas, j'ai rencontré de jeunes pratiquants comme Lily, 10 ans. Elle a choisi le skate et figurez-vous que c'est la seule.
Comme sport,
de
ses copines.
Une, elle fait de la gym et l'autre du tennis.
Et du coup, justement, quand on parle avec elles, elles sont là, genre, ah, trop cool, tu fais un sport extrême, un sport de fou furieux.
Un petit peu, elles sont un peu impressionnées, et sinon, voilà.
Elles étaient une petite dizaine en séance harnachées de protection de la tête aux genoux. Pour vous donner une image un peu comme des mini CRS en jean et en sweat à capuche, j'ai demandé à ces jeunes si c'était compliqué de pratiquer un sport majoritairement masculin, et presque à chaque fois, elles me répètent, le plus dur, c'est de se lancer et d'affronter le regard des mecs.
Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu très peur du regard des autres, mais après, il faut avoir un bon caractère, parce que si on est vraiment dans sa bulle et qu'on n'ose pas, on ne va jamais le faire.
Au départ, oui. Mais une fois qu'on se sent à l'aise, même parmi les garçons, je pense que c'est bon. Mais c'est vrai qu'au départ, sûrement, c'est un peu plus compliqué aussi. Par rapport au regard des garçons, ça peut faire peur.
Au début, je trouvais pas trop d'autres filles avec qui faire. Dans les skateparks, on se sent un peu seul si on y va. On voit que des garçons qui, du coup, arrivent très bien à faire du skate.
Voilà, c'est bien, super.
Ouais, comme dans beaucoup de sports, on remarque vite des différences de comportement entre les garçons et les filles. Je les ai observées pendant près d'une heure et presque à chaque fois dans la queue pour réaliser l'exercice. Eh bien, les mecs doublent les filles.
Ils veulent toujours faire « je suis le plus fort et je suis trop cool » et des trucs comme ça. C'est un peu énervant.
Je ne double pas. J'essaye d'être premier. Mais je ne double pas.
Premier, mais il y en a d'autres qui doublent. Ils veulent tout en montrer. Un peu trop casse-cou, je trouve, tout le temps dans « regarde, je sais faire ça, regarde, je sais faire ça », alors que les filles, ça va plutôt être « ah, tiens, tu sais pas faire ça, viens, je t'aide, je te montre ». Ça, je trouve ça cool aussi, entre filles, ouais. T'arrives bien, hein, quand tu montes et tu redescends, ça t'arrive bien. En fait, il faut que tu trouves l'équilibre.
D'accord.
Ouais, de l'entraide, on l'entendait, des comportements que confirment les encadrants. Dans leur pratique, les garçons sont plutôt individualistes, du genre celui qui saute le plus haut, celui qui fait la meilleure figure, tandis que les filles se poussent et s'entraînent entre elles.
Et alors, on l'a compris, quand on est une fille, c'est pas facile de s'imposer dans le skate. Mais est-ce que des modèles féminins encouragent les jeunes à se lancer?
Alors, on le voit de plus en plus depuis quelques années, mais c'est encore timide. Mathilde, par exemple, a commencé le skate en voyant des vidéos de Sky Brown, une skateuse de 14 ans, médaillée aux JO de Pékin.
Sky Brown is about to drop. X Games winner.
Je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était très impressionnant. Et moi, je voulais aussi faire du skate comme ça. Il n'y a pas vraiment des filles qui font du skate. Et je crois que c'est une motivation quand on voit une autre fille. Parce que sinon, on dit, oh, c'est que les gars qui font du skate. Et c'est pas un truc pour les filles. Moi, je trouve que c'est pas comme ça.
Et Mathilde, c'est la seule qui a été capable de me donner le nom d'une skateuse professionnelle. Un constat amer que partage Tom, c'est l'un des encadrants du cours.
C'est compliqué de pas avoir forcément de modèle skateuse. J'ai demandé à Lily tout à l'heure. Ouais. Elle connaissait pas de filles skateuses, par exemple.
Alors moi, j'en connais certains noms, mais c'est les classiques. C'est comme quand tu demandes à un non-skateur, il va te sortir Tony Hawk. Moi, je peux sortir des noms, mais tout le monde n'en est pas capable. Et c'est comme, par exemple, pour le football féminin, tu peux pas toujours facilement sortir des noms de footballeuses. Après, pas pour tout le monde, mais voilà, c'est sous-représenté.
On l'a entendu, les garçons font les coques, les casse-cou, ils gonflent le torse, occupent l'espace et s'imposent devant les filles. Alors, comment garantir à nos skateuses un espace sécurisé où elles peuvent s'entraîner en confiance? Eh bien, parmi les solutions, les cours ont mixité. C'est ce qu'a créé Isabelle avec la NL Rolling School, une séance exclusivement réservée aux femmes pour prendre confiance et se réapproprier les lieux de skate.
Le skatepark, c'est un endroit qui est très masculin. Maintenant, ça se démocratise un petit peu. En tant que fille, tu te dis que t'as pas ta place dedans. Alors que, en fait, c'est plus un regard que toi, tu portes de l'extérieur, quoi. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé le skate, c'était il y a pas si longtemps que ça. Il y a plein de gens qui disaient « Ah, c'est super, j'en vois pas beaucoup, des filles, etc. » Et en fait, le fait qu'il y en ait de plus en plus et qu'elles soient médiatisées de plus en plus aussi avec les Jeux Olympiques, on voit que c'est possible. Et donc, ça donne des idées aux plus jeunes qui se disent « Ah, ok, mais en fait, c'est pas un sport qui est exclusif aux garçons. »
Et puis Delphine, peut-être on vous verra avec une planche de skate à la main. Les cours Girls and More sont proposés tous les samedis au gymnase Twigger de Königshafen à Strasbourg.
C'est bien noté. Et puis, s'il vous fallait une raison de plus de vous intéresser au skate féminin, rendez-vous en 2024 pour les épreuves olympiques. On vient de vous proposer donc deux immersions aux abords des stades dans un cours de skate. Et on l'a vu, le sexisme dans le sport n'a pas d'âge. Tout commence dès la cour de récréation en école primaire. Je suis certaine que vous avez des souvenirs des garçons maîtres des lieux avec leurs ballons et pas moyen de se joindre à la partie. Pour mieux comprendre les enjeux autour de cette question, Anthony Gilly a infiltré ce lieu qu'on aime tant lorsqu'on est enfant.
Un préau, du gazon, un carré de béton et deux arbres, vous l'avez compris. Je suis dans la peau d'une cour de récréation à Strasbourg. Ici, ça crie, ça court, ça bavarde. Les compétitions de cordes à sauter et les parties de foot, je connais. Ce quotidien, je le partage avec 4 millions d'écoliers. C'est chez moi que les enfants adoptent certains comportements sexistes. Je le sais grâce à ma cousine, la cour de récréation d'une école primaire des Landes. Chez elle, pendant 5 ans, des chercheurs ont observé le partage de l'espace de jeu entre les filles et les garçons. Edith Marué-Jules est l'une de ses spécialistes. Elle est géographe, experte des questions d'égalité dans l'espace urbain. J'ai aussi eu la chance d'être scrutée et son constat est clair. Malgré une présence égale des deux sexes, 80% de ma surface est occupée par les garçons. Elle s'approche notamment par rapport au foot, car les garçons s'approprient mon espace central pour jouer à ce sport. Les filles, elles, sont reléguées à mes extrémités. Elles pratiquent environ 25% d'activité physique en moins pendant la récréation. Certains chercheurs travaillent désormais avec des mairies pour réaménager mes cousines de Lyon, Rennes ou encore Grenoble. Ici à Strasbourg, c'est aussi le souhait de la ville pour proposer des pratiques sportives ouvertes à toutes et tous. Dans plusieurs établissements, les marquages au sol de mes terrains de foot disparaissent, remplacés par du gazon et des zones multisports considérées comme non genrées. L'occasion aussi de me refaire une petite beauté.
Et les enfants, là, retournent en classe et parfois, tu es une cour plus ambitieuse encore.
À la Méno, un groupe scolaire est en construction et le projet est encore différent. Je perds certaines couleurs, pas de bleu pour les garçons ni de rose pour les filles. On me préfère non genré avec des touches de vert, de jaune et de orange. Pour les fresques sportives sur mes murs, c'est le même destin. Je dis adieu à ce garçon qui joue avec une balle et à cette fille à la corde à sauter. Désormais, ils sont représentés ensemble dans les mêmes activités. L'objectif, éviter les stéréotypes de genre dès l'école. Pourtant, certains enseignants ne voient pas cette discrimination. Pour eux, la mixité dans ma cour de récré, elle est parfois respectée. Garçons et filles jouent ensemble. C'est le cas de Nathalie Alter, directrice depuis 6 ans de l'école Édouard Branly à Strasbourg. En 40 ans d'enseignement, elle ne pense pas avoir vu de tels problèmes, ce qui ne l'empêche pas de comprendre le besoin de travailler sur la mixité dans le sport dès l'école primaire.
Merci Anthony. Et il est 14h42 et pour la suite de cette émission, si vous le voulez bien, restons à l'école, lieu des cours d'éducation physique et sportive, une plaie pour certains et certaines. En EPS, les résultats des filles sont faibles et systématiquement inférieurs à ceux des garçons. C'est pas moi qui le dis, c'est le constat de la chercheuse, Cécile Vigneron. Et ce constat, il a plus de 15 ans, il est toujours d'actualité. En France, les cours d'EPS sont mixtes jusqu'au bac, mais ils n'empêchent pas une vision stéréotypée du sport, avec 70% de profs hommes. Et les attentes sont encore différentes suivant que l'élève est une fille ou un garçon. Martin Hortin.
Victoria est en troisième année à la fac de sport. Elle veut devenir prof d'EPS et elle se sent mieux armée que ses anciens enseignants pour lutter contre le sexisme.
C'est vrai que souvent les profs, ils n'ont pas tendance à prendre en compte l'hétérogénéité. Mais justement, là dans nos études, on apprend vraiment à faire la différenciation entre chaque élève et à prendre en compte ce genre de soucis. Par exemple, on a des cours où on doit apprendre à construire des situations d'apprentissage pour chaque type d'élève qu'on pourrait avoir, chaque type de problème rencontré, etc.
Tenir compte des besoins particuliers et surtout proposer les cours les plus inclusifs possibles à ses futurs élèves.
Dans les faits, ouais, j'aimerais pouvoir pratiquer peut-être des activités aussi plus ouvertes que les simples activités qu'on pratique en général en EPS. Donc sport collectif, sport de combat, sport de raquette, et c'est des activités qui en général défavorisent les filles. Et pouvoir proposer des activités plus diversifiées, ça ouvrirait aussi la pratique et ça enlèverait un peu les stéréotypes.
Pour tenir compte des différences physiques entre garçons et filles, les grilles de notation sont différentes. Pour Nemo, qui se destine au même métier, il ne faut pas abuser des traitements qui séparent en fonction du genre.
Je sais qu'un prof, c'était assez maladroit, ça, la façon dont il l'avait amené. C'était, si une fille marquait, c'était le panier compté double ou des petits trucs comme ça. Moi, j'aime pas trop l'idée. Enfin, ça accentue le fait qu'elles sont supposées être moins fortes. C'est important de limiter au maximum les différences faites. C'est-à-dire que c'est après ta séance à toi, en tant que prof, que tu dois vraiment adapter en fonction de ta classe. Après, que ce soit même des filles ou des garçons, en fonction du niveau des élèves, etc., tout doit être adaptable.
Et une autre piste pour éviter le sexisme dans les cours de PS, c'est peut-être le sport en non-mixité. Une pratique déjà expérimentée dans d'autres pays, comme la Suisse ou la Finlande.
Un reportage de Martin Hortin. Voilà, dans la suite de cette émission, on va vous proposer une rencontre avec une pionnière du foot féminin, mais juste avant ça, une petite pause musicale. Il est 14h48, vous êtes sur Radio QEJ. Face à la difficulté de faire bouger les lignes au niveau professionnel comme amateur, certains clubs ont décidé de se consacrer uniquement aux femmes. Et c'est le cas du Football Club Vendenheim au nord de Strasbourg qui évolue en Régional 1. Sur les trois terrains du complexe sportif, pas un seul homme ne foule en crampons la pelouse dans les effectifs.
Ici, ce qui est bien, voilà, c'est qu'il
n'y a que des femmes.
Vraiment mis en avant, alors qu'on peut voir dans d'autres structures, même à Strasbourg, des clubs qui ont des féminines. En fait, les garçons seront toujours un peu prioritaires. Donc il y aura les financements qui seront toujours un peu pour les garçons, pour l'équipe une. Alors qu'ici, en fait, c'est tout l'inverse. Ils essayent de mettre beaucoup de choses en place pour qu'on soit dans les meilleures conditions.
L'année dernière, en tant que joueuse de D2, vous gagnez combien grâce à Vendenheim ?
Là, je la laisse répondre.
Il y avait des filles qui étaient plus cadres que d'autres, qui, elles, avaient un salaire fixe. Du coup, nous, on avait un peu moins. Ça pouvait aller de 200 fixes à quasiment 1000 en fonction des filles.
Mais donc, par rapport à un joueur de Ligue 2, c'est dérisoire ?
Oui, très clairement, un joueur de Ligue 2 masculin, actuellement, il fait que ça. Il se lève le matin, il va à l'entraînement, il rentre, après il retourne à l'entraînement. Nous, on doit travailler et après seulement aller à l'entraînement.
Bon, on va vous laisser aller vous entraîner. On va s'écarter légèrement du terrain d'entraînement pour aller retrouver Marie-Lou Duringer-Eckert. C'est l'ancienne présidente du club de Vendenheim. Et au-delà de ça, elle est surtout l'une des pionnières du football féminin en France. Depuis les années 60, elle s'est battue pour faire reconnaître le foot féminin. Ce combat l'a d'ailleurs amenée à devenir la première femme à siéger au Conseil fédéral de la Fédération française de football.
Bonjour Marie-Lou.
Bonjour, ça va ?
Ça va et vous ? Alors ici, il y a les équipements. Il n'y a que les équipements et puis tout ce qui est feuilles de match. Voilà, c'est tout.
Depuis 1974, vous devez en avoir quand même des souvenirs.
Bien sûr, j'ai des souvenirs en tant que joueuse, en tant que dirigeante ici, en tant que dirigeante à la Ligue d'Alsace, en tant que dirigeante à la Fédération. Moi, j'avais quand même 18 ans à l'époque. J'avais des copains de classe et qui jouaient au foot, des très bons joueurs d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a été sur le terrain de football et qu'on a appris par l'intermédiaire d'un dirigeant du club masculin qu'il y avait du football féminin en Italie à l'époque. Ce qui fait qu'elle a dit, tiens, quand on irait, on ne ferait pas une équipe féminine. Et moi, ok, pas de problème. Le premier match officiel amical qu'on a fait en 86 contre Gerstheim à l'époque, on avait 1500 spectateurs. Et je sais très bien que tous ces mecs sont venus pour voir des cuisses, les cuisses des nanas. Je le sais très bien. Mais on était là, on continuait notre bonhomme de chemin. Et petit à petit, on a quand même eu des supporters qui venaient pour le match, pour le foot, tout simplement.
De ces années de joueuse puis de dirigeante, finalement, ça fait de vous une des pionnières du football féminin en France.
Oui, oui. Je représentais le président de la Fédération française sur tous les matchs officiels de l'équipe de France. J'ai été élue par l'Assemblée fédérale. En 86, j'étais la première, effectivement. Il fallait une femme représentante du football féminin, parce que ça rentrait dans les obligations ministérielles.
Ça ne devait pas être facile au milieu de tous ces hommes.
On va dire que ça n'a pas été difficile au milieu des hommes. J'avais 35 ans à l'époque. Mais ce qui a été un peu plus difficile, c'est faire accepter la pratique féminine. L'acceptation de certains dinosaures du football en général, Michel Hidalgo m'a dit « Marie-Lou, c'est pas un football pour toi, c'est pas un sport pour toi. » Point barre. Et 10 ans après, il m'avait dit « Marie-Lou, on avait un match France-États-Unis. » Il a dit « Marie-Lou, maintenant je suis d'accord avec le football féminin. » Là, il a commencé à apprécier la pratique féminine. Tous les présidents, c'était pas des pros foot féminin. Aucun. Même pas aujourd'hui Noël Le Graët. Et lui, c'était pareil. Quand je présentais un document, et lui, il avait l'équipe devant lui. D'autres avaient la mallette sur la table, prête à partir. Donc je dis, ne me mettez pas de bâton dans les roues. Je ne vous demande pas d'aimer la pratique féminine, mais ne me mettez pas de bâton dans les roues et laissez-moi travailler. Mais les critiques sexistes, bien entendu, qu'il y en avait. Mais comme dit, je les rejetais, je ne les écoutais pas. J'ai toujours dit, j'avais des œillères. J'ai toujours dit aussi aux filles, ne répondez à rien. Comportement de filles, pratique féminine. Je ne voulais pas de dérive. Voilà, donc on avait une fois une fille, effectivement, qui, voilà, c'était un petit peu le garçon manqué, trop de bière et des picons. Je dis, Niette, comportez-vous comme des filles pour pouvoir être acceptées, sinon ça ne passera pas.
Vous vous dites quel chemin parcouru depuis toutes ces années?
Oui, en partant de zéro pour arriver à ce qu'il y a aujourd'hui, forcément, il y a du chemin parcouru, puisqu'il n'y avait rien. On a tout créé, tout ce que les garçons avaient et ont, on l'a fait aussi. La chose pour laquelle je me suis battue, c'est que les filles jouent au foot. À l'époque, elles n'avaient pas le droit. Et ma plus grande fierté, c'est que les filles se sont ralliées à la pratique féminine. Pour moi, la meilleure arbitre pendant la Coupe du Monde masculine, une femme, c'est extraordinaire. Et je ne fais pas de féminisme, là. C'est parce que je trouve que c'est extraordinaire. Ça veut dire que des femmes peuvent faire aussi bien, sinon mieux que des garçons. Donc il faut pas les oublier. Il faut surtout penser aux femmes.
Merci beaucoup Marie-Lou.
Un témoignage recueilli par Pierre Bazin. Et on l'a vu, donc des filles qui jouent entre filles et des garçons entre garçons. Et si l'on mélangeait les deux, eh bien ça existe déjà. Peu nombreux, peu connus, les sports mixtes. Renverse la table, l'Ultimate Frisbee en fait partie. Ici, pas de séparation entre équipe femmes et hommes. L'Ultimate se joue à 7 contre 7, 3 hommes, 4 femmes ou l'inverse, selon ce qui est décidé au début des matchs. L'objectif, lancer le frisbee dans la zone de marque de l'équipe adverse.
Si on fait des statistiques vraiment bêtes et méchantes des matchs mixtes à haut niveau, on se rend compte que les hommes ont tendance à toucher plus le frisbee que les femmes. Maintenant, et justement, les équipes qui performent le mieux sur le terrain et qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, c'est les équipes qui arrivent à inclure davantage les femmes sur le terrain et dont les femmes ont un rôle qui est beaucoup plus prépondérant à l'intérieur des matchs. Donc, ce qui ressort pour la performance, c'est que justement, jouer dans cette vraie mixité, c'est ça qui va permettre d'être plus performant.
Est-ce que cette mixité qu'on voit dans les équipes, est-ce qu'elle se reflète aussi au niveau des entraîneurs ?
Alors, oui, mais on n'est pas sur une parité qui est parfaite. Nous, je sais que c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler à Strasbourg. Ça met du temps à se mettre en place. Encore cette année, on n'a pas suffisamment de femmes qui sont investies dans la gestion des entraînements et là-dedans, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est clairement un objectif à atteindre, en tout cas.
Et donc la mixité, ça devrait être plus commun dans le sport ?
Oui, parce qu'il y a plein d'enjeux de vivre ensemble, il y a plein d'enjeux de respect de la personne qui sont cachés derrière. Je ne serais pas forcément pour que tous les sports se transforment en sport mixte, mais plutôt qu'on rajoute une catégorie.
Voilà, vous venez, 19h30 sur le terrain d'entendre Gaël Ancelin. Il joue dans l'équipe de France d'Ultimate. Il est également entraîneur dans l'équipe mixte du c'est la section Ultimate Frisbee du Strasbourg Université Club, l'un des trois clubs d'Ultimate de Strasbourg. Il était au micro de Servane de Passre. D'ailleurs, Servane est allé sur le terrain de frisbee avec les joueurs de ce club. Et la mixité, ce n'est pas si évident.
19h30 sur le terrain de foot du stade de Lille, pas de ballon mais des frisbees. Ce soir, ils sont 22 à s'entraîner, 17 hommes et 5 femmes. Et pour un sport mixte, c'est pas trop ça. Ce nombre de joueuses présentes sur le terrain ce soir, il se reflète aussi dans le nombre de licenciés du club.
29 sur 49 masculins, du coup 20 féminins. Donc c'est, ça doit être du 40-60, je sais pas, au kiffomètre à peu près.
Et nous, par rapport aux autres années, c'est beaucoup ?
Par rapport à l'an dernier, il faudrait demander aux anciens. Cédric, t'as des idées des pourcentages des années précédentes ? Parce que du coup, là, on est à 60-40.
Et ouais, 60-70 en termes de mecs. Ouais, 60-70%.
Alors, qu'en disent les joueuses ? Gwen fait de l'ultimate depuis 10 ans. Pour elle, les difficultés de recrutement de femmes ne sont pas directement liées à la discipline.
Il y a quand même moins de filles qui font du sport que de garçons, donc je pense que c'est pas spécifique à l'ultimate, mais plus de manière générale à la pratique sportive.
Et ce manque de joueuses, il a des conséquences concrètes. Anaïs fait de l'ultimate depuis 3 ans.
Il y a tellement moins de filles que finalement, une fille, dès qu'elle se débrouille un peu bien, elle a beaucoup plus accès à des choses. Quand je dis que les filles ont un plus faible niveau que les garçons, je pense forcément à moi, parce que je trouve que les derniers garçons qui ont été recrutés en équipe 1, ils sont quand même beaucoup plus expérimentés que moi, par exemple.
Alors face à ça, une solution.
Il faut vraiment réussir à recruter des filles pour que leur niveau grandisse aussi et pour qu'il n'y ait pas une différence où on se dise dans cette équipe, tous les mecs sont super forts et les filles sont un peu moins fortes, mais elles sont là parce qu'on n'avait pas mieux. Il y a encore un peu ça.
Et cette tendance est nationale. La Fédération française de Flying Disc recense un peu plus de 5300 licenciés en 2020. Seulement un tiers étaient des femmes.
Voilà, et si des auditrices ou des auditeurs sont tentés de découvrir ce sport, sachez que pour l'instant, pas d'ultimate au JO, mais la discipline est représentée aux Jeux mondiaux. Il est 14h58, c'est l'heure de notre deuxième petite pause musicale.
Oublie.
Il est 15h sur Radio QEJ. Et on entame la deuxième demi-heure de notre émission. Venons-en maintenant au monde professionnel. Encore semé d'embûches pour les femmes, beaucoup aspirent à vivre de leur sport. Mais selon un rapport du Sénat, pour en vivre, les femmes doivent souvent cumuler emploi et sport de haut niveau. Illustration au club de handball de Arenheim-Truchtersheim à 20 minutes de Strasbourg, club qui évolue en D2. Je vous laisse écouter le quotidien de Tiffen, gardienne de but, 21 ans.
On commence à 9h, on termine à midi. J'avais une pause de midi à 14h, c'est déjà pas mal. Et après 14h, 18h, toujours au travail. On arrive à l'entraînement à 18h30 et après jusqu'à 20h30 en général. Et le mercredi, on a en plus un entraînement entre midi et 14h. Donc il faut aussi filer les deux. Mais en général, c'était ça, 6 jours sur 7.
Tiffen parle au passé parce qu'avant, elle enchaînait un 35 heures dans sa boutique d'optique et ses 12 heures d'entraînement de hand. Il y a un an, elle est passée à mi-temps et c'est un soulagement.
C'est compliqué, fatigant, c'est beaucoup d'implications personnelles, on va dire, plus beaucoup de temps libre, etc. Mais c'est pour ça que le contrat à 21h cette année me fait du bien.
Tu vois la différence à quel niveau ?
Au niveau de la récupération, je dirais, du sommeil, du temps pour soi aussi, ça fait du bien. C'est surtout ce temps-là qui me manquait.
Et même si physiquement, vous l'entendez, ça va mieux, avoir deux emplois, ça reste une charge mentale.
Quand on a passé une mauvaise journée avec pas forcément des clients très, très sympas, après il faut réussir à revenir à l'entraînement, à passer dans la voiture. Déjà on essaye un petit peu de se changer de casquette et après il faut changer encore dans le vestiaire et bien, l'entraînement déterminé. Donc des fois c'est un peu compliqué.
Et dans ces conditions, les joueuses, peuvent-elles vraiment être performantes ? Un temps plein, ça changerait beaucoup de choses. On va écouter Dalila qui est la capitaine du club.
Peut-être que ça me permettrait d'être plus régulière. C'est quand même un vrai confort, confort de temps, confort d'un point de vue vital aussi. On peut aller plus souvent chez le kiné, plus souvent à la cryothérapie, plus souvent chez le médecin, enfin, même le temps de se faire à manger. C'est sûr que ça aurait des répercussions positives sur les performances.
Et les joueuses l'assument, si on leur proposait de devenir professionnelle à temps plein, Dalila lâcherait son emploi d'animatrice périscolaire et Tiffen son job d'opticienne. S'il y a bien une différence fondamentale entre les hommes et les femmes sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, c'est que ce sont elles qui tombent enceintes. Bonjour Louise Forbin.
Bonjour Delphine.
Alors Serena Williams dans le tennis, Cléopâtre Darleux dans le handball, certaines sportives de haut niveau font le choix d'avoir un enfant en cours de carrière. Ce choix, il a encore de grosses conséquences sur la carrière des athlètes professionnels.
Jusque dans les années 90, avoir un enfant en cours de carrière relevait de l'exception pour les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, les carrières des athlètes sont plus longues et certaines font le choix de l'interrompre pour devenir mère. Je suis allée rencontrer l'équipe professionnelle de volley Mulhouse-Alsace. Silke van Avermaet est une des joueuses. À 23 ans, sa carrière a modifié ses désirs de maternité.
Pour moi, je pense que je vais arrêter après parce que c'est tellement dur de combiner être une mère et une carrière du volley parce que quand tu joues à l'extérieur, par exemple, tu dois voyager. Avant, j'ai toujours dit que je voulais avoir un bébé quand j'avais 28 ans, mais j'ai déjà dit que c'est possible que c'est un peu plus tard parce que je veux investir dans ma carrière avant que je fasse la décision d'avoir un bébé.
Dans le volley, comme dans la plupart des sports collectifs, il n'existe pas de congé maternité pour les sportives, outre le régime général de 18 semaines. Ces 18 semaines se divisent en deux, 6 semaines prénatales et 12 semaines après l'accouchement.
Et cette durée n'est pas suffisante pour les sportives de haut niveau ?
C'est ce que j'ai demandé à Julie Oliveira Souza, une autre joueuse de volley Mulhouse-Alsace. À 27 ans, elle ne s'était jamais posé la question de comment fonctionne le congé maternité des sportives.
Moi, je pensais qu'on était rémunéré comme une blessure, dans le sens par la sécu. J'imaginais, mais je sais pas en fait, je sais pas du tout comment ça se passe à vrai dire, je sais pas. Moi je pensais que c'était par la sécu qui nous rémunérerait, mais c'est vraiment une bonne question, je me suis jamais posé de question.
Alors non, 18 semaines ne suffisent pas Delphine, les athlètes professionnels doivent souvent s'arrêter après 3 mois de grossesse et mettent au moins 6 mois à retrouver leur niveau après la naissance d'un enfant. Mais pour Julie Oliveira Souza, l'absence de congé maternité n'est pas la seule difficulté.
Je pense qu'il y a, un calcul à faire, ouais. Ou le choix de le faire tôt dans sa carrière, ou le choix de le faire tard et d'arrêter, quoi. Vouloir un enfant après 30 ans, il faut vouloir revenir. Et c'est comme si finalement on se blessait dans le sens qu'on reste un an sans jouer. Athlétiquement, il faut se battre vraiment. Mais après, il y en a qui l'ont fait. Après, en France, c'est moins bien vu, je trouve. Si je suis enceinte aujourd'hui, ça ne va pas être bien pris par le club. Pour y perdre une joueuse, et donc voilà, ils ne sont pas contents.
Pourtant, l'absence de congé maternité pour les sportives n'est pas une fatalité. En mars 2021, la Fédération de handball s'est dotée d'une convention collective, une première pour un championnat professionnel féminin de sport collectif. Cette convention les protège notamment en cas de grossesse.
Mais Louise, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont droit à un vrai congé maternité ?
Oui, on peut le dire. Les joueuses professionnelles de handball ont désormais le droit à 12 mois de salaire plein lorsqu'elles s'arrêtent pour avoir un enfant. Les clubs sont également protégés et peuvent remplacer ponctuellement la joueuse absente. Aurélien Durafour est manager du club de handball de Arenheim-Trustersheim, juste à côté de Strasbourg. Pour lui, il est essentiel d'aider les sportifs qui veulent devenir mères.
J'ai tendance à penser que l'évidence va rattraper les fédérations qui n'ont pas aujourd'hui sauté le pas. Considérant qu'une sportive de haut niveau va avoir un cœur de carrière entre 18 et 30 ans, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'entre 18 et 30 ans, on a le droit aussi d'avoir une parenthèse qui est une parenthèse liée à la grossesse et à la maternité, parce que c'est un projet de vie, parce que c'est autorisé pour les garçons à très haut niveau et que ça ne doit aujourd'hui pas, absolument pas être un élément handicapant.
Aurélien Durafour pense même qu'il est possible d'aller encore plus loin dans l'accompagnement autour de la maternité.
Une réflexion sur l'accompagnement du couple mère-enfant. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'emmener une athlète qui vient d'être maman à l'autre bout de la France pour jouer un match de 2 fois 30 minutes ? Voilà, je crois qu'il y a plein de petits éléments à mettre en place. Par exemple, les horaires d'entraînement qui peuvent être aussi adaptés pour faciliter de manière unisexe l'arrivée d'un enfant dans un couple de sportifs de haut niveau.
Pour faciliter la grossesse et le postpartum des sportifs de haut niveau, il reste donc du chemin à parcourir. D'autres sports avancent sur ce sujet, comme dans le football. Depuis 2020, la FIFA impose un congé maternité rémunéré d'au moins 14 semaines, et ce, en plus des droits applicables dans chaque pays.
Merci Louise Forbin pour cet éclairage. Donc rémunération, cumul d'emploi à mi-temps, congé maternité, vous l'avez compris, l'argent pour les sportifs, c'est le nerf de la guerre et on le sait. Elle manque de moyens. Amine Snoussi, vous êtes avec moi dans ce studio. Dans certains sports, les inégalités hommes-femmes sont plus fortes que dans d'autres.
Alors, une étude de l'Institut de recherche ILOP a déterminé les bons et les mauvais élèves de l'équité salariale. Le sport le plus paritaire est le tennis, qui a installé l'égalité stricte des récompenses de tournois depuis 1970. En France, selon l'experte en droit et en économie du sport Joël Monluy, le football et le rugby incarnent le plus les inégalités hommes-femmes. En Ligue 1, les footballeurs français gagnent près de 200 fois plus que les joueuses de Division 1, tandis qu'au rugby, le statut des joueuses est encore amateur.
Mais il n'y a pas que les salaires pour les athlètes. Les acteurs privés jouent aussi un rôle important à travers le sponsoring.
Dans les sports les plus médiatisés, les accords commerciaux viennent s'ajouter aux salaires. Ce sont les partenaires qui font ensuite les pubs, mais aussi tout ce que vous voyez chez l'athlète. Les chaussures, les montres, les casques, les boissons. En bref, tout ce qu'il ou elle diffuse est une publicité potentielle. Selon le Centre international d'études du sport, ces accords sont massivement inégalitaires entre hommes et femmes. Kylian Mbappé touche près de 73 millions d'euros par an, tandis qu'aucune joueuse de football professionnel ne touche plus de 2 millions par an en sponsoring.
Ok, est-ce que l'État a mis en place des dispositifs qui permettent de réduire ces écarts de salaire ?
Oui et non, une aide personnalisée du ministère des Sports existe pour les athlètes de haut niveau. Ces fonds sont soumis à des critères de performance qui font que les femmes en bénéficient beaucoup moins. Et le montant moyen de l'aide en 2009 pour les femmes était de 2600 euros, tandis que les hommes touchaient aux alentours de 3000 euros.
Et comment on peut expliquer donc la faiblesse des montants dédiés au sport féminin alors que les audiences semblent progresser ?
Des matchs de football ou de tennis atteignent maintenant des audiences de plus en plus comparables au sport masculin. Néanmoins, la diffusion est limitée à des grands événements. Si on prend l'exemple du basketball féminin, sur les 3 dernières années, il n'y a que les finales de play-off et le championnat d'Europe qui sont diffusés sur des grandes chaînes telles que France Télévisions. Le championnat féminin est lui diffusé sur une chaîne créée par le comité olympique qui ne paye pas de droits de diffusion. Pour plus de sport féminin à la télévision, le sociologue du sport Nicolas Delorme propose de mettre des quotas de diffusion afin d'avoir un équilibre homme-femme sur le service public.
Amine Snoussi pour cet éclairage. Il est 15h09, troisième pause musicale de notre émission. My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed love.
Fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you.
to talk us in. You give me something that I can give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you.
Vous écoutez Radio QH. On entame la troisième partie de cette émission et on commence avec la danse. Elles sont moins bien payées que les hommes et elles accèdent moins souvent aux postes à responsabilité. Dans la Fédération française de danse, en 2018, 9 licenciés sur 10 sont des femmes. Et malgré ce surnombre, elles peinent à grimper les échelons dans le monde très compétitif qu'est la danse. Maître de ballet, directeur d'opéra, chorégraphe, des postes clés qui sont souvent occupés par des hommes. Simon Chenot et Marine Corbel sont allés à la rencontre des actrices et des acteurs du milieu pour essayer de comprendre ce phénomène.
Flora, Pauline et Marie-Alexandra sont en avance. Elles attendent que le cours précédent s'achève. Les trois jeunes femmes sont en licence de danse à l'Université de Strasbourg.
Là, on est une promo d'une vingtaine de personnes, je pense. Il n'y a que des filles. Il n'y a pas un garçon dedans.
Ce qu'on disait aussi ce matin, c'est que les chorégraphes, en général, étaient des hommes, mais les danseuses... Enfin, c'était des danseuses qui étaient sur scène. Mais derrière, c'était des chorégraphes hommes qui étaient là et qui géraient tout ça, en fait. Donc, est-ce que c'est une espèce de tradition ou juste quelque chose qu'on n'a pas encore voulu bousculer et qui va peut-être venir ?
Il y a quand même une inversion qui est doucement en train de se créer. Et on le voit bien, on le sent bien. Et on est très poussé par plein de chorégraphes, même par plein de chorégraphes hommes qui nous disent « Allez-y, montez votre truc et... » Et poussez-le à fond et on verra bien ce que ça donne.
Parmi ses chorégraphes, Laurentin Poulain, il dirige l'école de danse strasbourgeoise de cœur et d'art.
Alors du coup, là, ce que je lui avais demandé pour ce solo, c'était d'imaginer...
Vous faites partie des 63% à peu près de chorégraphes hommes. Qu'est-ce qui explique qu'en fait, il y ait autant d'hommes chorégraphes dans un milieu qui, au départ, est majoritairement féminin ?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments par rapport à ça. Donc il y a déjà la question de la concurrence, tout simplement. C'est-à-dire que quand on est dans un milieu qui est majoritairement féminin, bah, la concurrence est plus rude. Il y a aussi toute la logique qui fait qu'on encourage souvent les garçons, quand ils sont dans un milieu qui est féminin, à aller plus loin, à développer davantage. C'est un milieu qui est aussi assez obscur. Il y a beaucoup de secrets de polichinelle pour rentrer chorégraphe. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, on ne nous dit pas tout.
Ce plafond de verre, Claude Agrafey ne le ressent pas. Elle est maîtresse de ballet à l'Opéra du Rhin. Elle est dans le milieu de la danse depuis plus de 40 ans. Et pour elle, la question du sexisme dans le monde de la danse ne se pose pas.
Moi, je vous réponds direct que le milieu de la danse n'est pas sexiste, mais pas du tout. J'ai jamais, jamais, jamais eu le sentiment que d'être une femme était un frein pour moi.
Les chorégraphes, par exemple, qui sont très... je sais pas comment dire, mais starifiés, très reconnus, qui ont les lauriers et tout, je me dis, c'est énormément d'hommes, quoi.
C'est plus d'énormes, c'est plus, oui, effectivement, mais est-ce un hasard ? Est-ce que les femmes ont moins osé aussi, peut-être, à un moment donné ?
Hasard, système, le fait est qu'aujourd'hui, sur les 19 centres chorégraphiques nationaux, seuls 4 sont dirigés exclusivement par des femmes.
Reportage de Marine Corbel et Simon Chenot. Et on va continuer un peu sur notre lancée sur la danse. Louison Leroy nous a rejoint dans ce studio. Vous recevez une sociologue du sport qui a, elle aussi, observé ce monde dans le cadre de sa thèse.
Bonjour Annabelle Capret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue du sport et autrice d'une thèse sur le rôle des femmes dans la gouvernance des fédérations sportives en France. Alors on vient de l'entendre dans ce reportage sur le monde de la danse. Près des 2/3 des chorégraphes sont des hommes. C'est d'ailleurs un homme qui est à la tête de cette fédération en ce moment, le danseur Charles Ferreira. Vous, Annabelle Capret, qui avez notamment étudié la gouvernance de la Fédération française de danse dans le cadre de votre thèse, comment expliquez-vous l'existence et le maintien de cette direction d'hommes dans un monde de femmes, pour reprendre votre expression ?
Alors c'est un constat qui vaut pas que pour la Fédération française de danse. On le retrouve par exemple à la Fédération française de gymnastique, qui est également composée majoritairement de licenciés féminines, plus de 80%, et pour autant, à la tête de la fédération, c'est un homme, même si il y a quand même la parité au comité directeur. En tout cas, la Fédération française de gym n'a jamais été présidée par une femme, de toute son vie. Donc c'est un schéma qui ne vaut pas que pour la Fédération française de danse. Et comment expliquer ça? Alors les causes, elles sont multiples. Elles ont été en partie citées dans le reportage que vous venez de diffuser. Il faut savoir que quand on est dirigeant dans une fédération sportive, on est bénévole. Et être bénévole, c'est une forme de privilège, de pouvoir donner son temps. Et on sait que les femmes, par exemple, sont plus précaires sur le marché du travail, qu'elles sont plus souvent à temps partiel, qu'elles sont moins rémunérées, il y a toujours une inégalité salariale. Et de fait, elles sont aussi moins disponibles pour exercer ce type de responsabilité.
Alors ce phénomène... Alors ce phénomène n'est évidemment pas propre à la danse, vous citez vous-même la gymnastique. Vous avez aussi étudié le fonctionnement des instances dirigeantes de 4 autres fédérations, celles de basketball, de rugby à 13, de cyclisme et de l'UFOLEP, qui est une fédération multisport. Toutes sont dirigées par des hommes. Alors une politique de quota a pourtant été instaurée par une loi de 2014 pour aller vers la parité dans les comités directeurs. Pourquoi ça ne prend pas ?
Ça ne prend pas parce que les fédérations, bien souvent, se sont contentées, en tout cas, d'appliquer le quota. Elles ont, il faut le dire, elles ont joué le jeu au niveau quantitatif, mais finalement, le fonctionnement des organisations n'a pas changé. Il n'y a absolument aucun mécanisme qui a été remis en cause. Il n'y a pas eu de plan d'action, il n'y a pas eu d'argent mobilisé sur le sujet, et de telle sorte qu'on assiste à une augmentation quantitative du nombre de femmes, mais finalement, dans le partage des responsabilités, ça a assez peu changé.
Et quand même certaines accèdent à des postes de direction, on peut citer récemment l'élection de Gwenaël Gigarel-Nouri, qui succède à Nathalie Péchala, la tête de la Fédération française des sports de glace. Les femmes parviennent-elles, dans les faits, à vraiment s'imposer face à des assemblées masculines?
En tout cas, ce qu'on peut constater à la suite des quotas, c'est que cette intégration, je l'ai dit, il y a eu une entrée assez massive des femmes, cette intégration, elle n'a pas été pensée. De telle sorte que, moi, c'est ce que j'ai analysé dans les 5 fédérations que vous avez citées, c'est qu'on a des femmes qui sont nommées à des responsabilités, mais qui n'ont pas de budget pour mener les actions pour lesquelles elles ont été nommées, qu'elles n'ont pas d'écoute dans le comité directeur, qu'on leur coupe la parole, etc. etc. Donc, voilà, il y a de plus en plus de femmes qui sont à des postes à responsabilité, c'est un fait, et les chiffres le montrent, mais dans la vie de l'organisation, il y a beaucoup de mécanismes qui n'ont pas été pensés, des formes d'humour, des formes de sexisme, des formes d'exclusion. Ça a été évoqué dans le reportage également, la façon dont on partage l'information, comment est-ce que le réseau partage ou pas l'information à ses membres. Tout ça fait que finalement, oui, il y a quelques femmes qui sont à des postes à très haute responsabilité, mais... Le pouvoir n'est pas encore partagé réellement.
Et vous écrivez également, Annabelle Capret, que contrairement aux idées reçues sur la féminisation des instances, la tendance ne va pas en augmentant. Le chemin est encore long, selon vous, pour atteindre une parité totale à la tête des instances dirigeantes des fédérations sportives en France?
Oui, oui, le chemin est encore extrêmement long. Et peut-être une statistique pour étayer ça, c'est... à l'heure actuelle, avec les quotas, on est à peu près à 40% de femmes dans les comités directeurs, donc les instances élargies, les instances de décision élargies des fédérations. Mais à la tête, sur les 36 fédérations olympiques, on n'est toujours qu'à 2 femmes. Donc on voit bien qu'il y a toujours une hiérarchisation des responsabilités, une hiérarchisation des postes, et que l'égalité réelle, comme le postule la loi, elle est encore très loin d'être atteinte.
Ce que vous nous dites, donc, c'est qu'en vue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, on est encore très loin du compte. Merci, Annabelle Capret, d'avoir été notre invitée, sociologue du sport et autrice d'une thèse sur le rôle des femmes dans les gouvernances des fédérations sportives en France.
Merci, Louison. Et ce sexisme présent sur les terrains, on le retrouve aussi sur les écrans de e-sport, les compétitions sportives de jeux vidéo. Les joueuses souffrent d'insultes en ligne et de dénigrement de la part de certains de leurs coéquipiers masculins. C'est pourquoi une ligue entièrement féminine du jeu League of Legends a été créée pour permettre aux femmes de trouver leur place. Louison Leroy avec Amine Snoussi et Simon Chenot.
ouais, qui parle de FIFA, retourne à la cuisine, ne fais pas chier, t'es une femme, voilà quoi, t'as pas ton mot à dire, c'est du foot, les femmes sont nulles au foot, pas sur foot quoi.
Ces commentaires et insultes sexistes, les joueuses de jeux vidéo en reçoivent quasi tous les jours sur la plateforme Twitch, et ça, Étienne Bourdois est le mieux placé pour le savoir. En tant que modérateur, ça fait plusieurs années qu'il les supprime et punit leurs auteurs lors des compétitions du jeu vidéo FIFA organisées par la Ligue de football professionnel.
Présente la LFP, donc très importante institution, tu peux pas te permettre encore moins de laisser passer ces agissements-là.
Les utilisateurs tenant de tels propos sont bannis de ce que l'on appelle les chats, ces espaces de discussion en direct, mais ça ne règle pas le problème du sexisme qui, selon lui, est aussi présent au sein des équipes mixtes de e-sport.
Les femmes parfois ne se sentent pas à leur place dans le sens où bah, quand tout se passe bien, tout se passe bien, et quand tout se passe mal, bah, ça peut être pas parce que c'est une femme... Les gens vont plus facilement se défouler sur eux ou il n'y a aucune connivence dans l'équipe. Donc à terme, quand tu n'as pas de connivence avec tes coéquipiers, bah, il suffit qu'il y ait un élément déclencheur et ça se sépare. Ou voilà.
Et c'est précisément pour éviter ce sexisme que Sonia Alam a décidé de fonder il y a 4 ans la Ligue Féminine, un championnat uniquement réservé aux joueuses de League of Legends.
Le fait d'être entre filles fait que déjà, les équipes sont plus soudées dans un premier temps et dans un second temps, elles se mettent toutes d'accord sur le fait que bah voilà, elles sont des filles, elles veulent prouver que elles méritent quoi, d'être dans l'e-sport, etc. Donc le fait de se regrouper, entre guillemets, elles sont plus fortes. C'est déjà beaucoup plus efficace en termes de visibilité, en termes de messages. Elles comprennent que c'est important pour elles.
Avec, à terme, l'objectif de réunir gamers et gameuses dans une même ligue.
On ne peut pas se cantonner à juste avoir une ligue féminine, sinon ce serait trop réducteur. Entre elles, elles vont augmenter le niveau de jeu, mais à un moment, elles vont être capées, il va falloir qu'elles jouent en mixte, en fait. C'est juste un tremplin, en quelque sorte.
Il y a quelques jours, l'éditeur de jeux vidéo Riot Games s'est inspiré de l'initiative de Sonia Alam en annonçant la création de son propre championnat uniquement réservé, là aussi, aux femmes.
Allez, on souffle un peu, je vous propose quelques minutes de douceur musicale avant de filer direction la mer. Allez, je vous sens requinqué, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, si vous êtes d'accord, on vous emmène humer les embruns, du moins par procuration. Dans 539 jours et un peu moins de 4 heures, c'est le top départ des Jeux Olympiques de Paris. Et pour la première fois dans l'histoire des JO, la parité au niveau des athlètes devrait être atteinte. Mais au niveau de leur préparation, la route est semée d'embûches. Maëlys Jouot a 20 ans, elle est surfeuse de haut niveau. Son objectif, les JO 2028, mais pas toujours évident de trouver des sponsors quand on est une femme.
C'est vrai que c'est plus facile pour les garçons de trouver des sponsors qui sont rémunérateurs et surtout qui sont plutôt axés sur la performance. Chez les filles, on est encore un petit peu dans cette image de la surfeuse en maillot de bain et qui est bien bronzée et bien foutue, entre guillemets. Plus tu montres ton corps, entre guillemets, sur les réseaux, etc., et plus ils te donneront et ils regardent plus en fait ce que tu fais sur les réseaux que ce que tu fais dans l'eau. Et bah ça m'est déjà arrivé qu'on me refuse un sponsor et qu'on me dise que j'avais pas le physique qui les intéressait et voilà. Bon, après ça change dans le sens où les grosses marques là qui sponsorisent des athlètes vont commencer à repartager des performances pour le coup sportives ou des surfeuses qui surfent en combi intégrale, et ça c'est des choses qu'on voyait pas avant.
Et le surf est maintenant aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives aux surfeuses?
C'est sûr que ça va permettre de montrer que c'est pas juste un loisir et qu'il y en a qui travaillent pour réussir là-dedans et que c'est pas juste entre guillemets un sport de plage. Par exemple, les filles sont pas hyper respectées parce que c'est plus un sport qui est dit masculin. Peut-être que les jeux et si les autres surfeurs regardent un peu les jeux, ils voient que les filles, ça surfe aussi. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de respect pour les femmes dans l'eau aussi. Et ça peut être une bonne chose.
Et c'était une interview au micro de Servan de Pastre. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe en mixité qui l'a préparée. Et parmi mes coéquipières et mes coéquipiers du jour, il y avait à la régie Pierre Bazin et Anthony Gilly, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Paul Le Guen, entraîneur en chef et ghostwriter. Louise Forbin, reporter et copilote du bus de l'équipe. Simon Chenot, ingé son, bruiteur et coach mental. Marine Corbel, notre enquêtrice qui ne lâche rien chez les petits rats. Martin Hortin, notre prof de PS préféré. Amine Snoussi, à l'habillage musical et fervent supporter de la Tunisie. Louison Leroy, le geek et expert en virgule. Servan de Pastre, notre surfeuse qui joue au frisbee sur l'eau. Et Sophie Constancer, notre encadrante qui fait les meilleures lucarnes à la présentation Delphine Shields. À très bientôt sur QG Info.
Je crois que on est né pour se battre.
Moi, je pense que chaque sport est fait pour les filles comme pour les garçons.
Je vous réponds direct que le milieu de la danse n'est pas sexiste.
Fallait quand même s'accrocher. Il y a plein de gens qui disaient ben, « Ah, c'est super, j'en vois pas beaucoup des filles. »
Je sais pas comment dire, mais ils ont des propos un peu sexistes. Hein.
Malheureusement, il y a toujours des cons.
Et il n'y a pas beaucoup de femmes dans le championnat qui ont des enfants.
Est-ce que c'est une espèce de tradition ou juste quelque chose qu'on n'a pas encore voulu bousculer?
Ou la première médaille d'or pour Clarisse Agbenenu sur la droite de votre image en judo blanc. Notre porte-drapeau va-t-elle se parer d'or dans quelques secondes? En couvrant Yawazari! Oui!
On performe, mais c'est sûr qu'il faut toujours plus se battre. C'est comme ça dans le sport, mais c'est comme ça dans la vie aussi.